Chères auditrices, chers auditeurs, le 13 octobre prochain à midi, rejoignez-nous au Festival Pod Paris pour une table ronde exceptionnelle spéciale podcast santé organisée par Pyramidal Communication. Cette rencontre réunira des experts et des passionnés pour discuter des enjeux actuels et des innovations dans le domaine de la santé au travers du podcast. C'est l'occasion idéale pour découvrir les coulisses de vos podcasts santé préférés et rencontrer des professionnels du secteur. Ne manquez pas ce rendez-vous unique le 13 octobre à midi au Festival Pod Paris qui se tiendra à la Bellevilloise, rue Boyer dans le 20e arrondissement. Tous les renseignements sont disponibles sur le site podparis.fr. Rendez-vous le 13 octobre à midi. Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les vascularites à ANCA et pour évoquer le diagnostic de cette maladie rare, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Alexandre Carras. Professeur Carras, bonjour.
Bonjour à vous.
Professeur Carras, vous êtes néphrologue, praticien hospitalier au sein du service de néphrologie et hémodialyse de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Vous êtes membre du conseil d'administration du groupe français d'études des vascularites. Vous avez participé à la rédaction du récent PNDS sur les vascularites nécrosantes systémiques et vous êtes responsable du centre de référence des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires systémiques rares de l'adulte d'Île-de-France Est et Ouest, affilié à la filière FAI2R. Alors pour débuter notre entretien, professeur Carras, quel tableau clinique doit faire suspecter une vascularite à ANCA ?
Alors, en deux mots, quand on parle de vascularite à ANCA, c'est un groupe de maladies qui comporte trois pathologies, qui ont chacune une particularité clinique, mais qui partagent un certain nombre de symptômes. On distingue ainsi la granulomatose avec polyangite, qu'on appelait anciennement la maladie de Wegener, la polyangite microscopique, et la granulomatose éosinophilique avec polyangite, qu'on appelait, qu'on continue un petit peu à appeler aujourd'hui, maladie de Sjögren-Strauss. Alors, il s'agit de trois maladies auto-immunes qui sont toutes caractérisées par l'inflammation de la paroi des petits vaisseaux sanguins. Cette inflammation peut toucher divers organes et donc ainsi donner une présentation clinique assez variable d'un patient à l'autre. Alors, en premier lieu, il existe ce qu'on appelle des signes généraux. Ça comporte une fatigue importante, une perte d'appétit, suivie d'un amaigrissement, parfois une fièvre qui persiste pendant quelques jours, voire quelques semaines. Les patients se plaignent également souvent de douleurs articulaires et musculaires qui s'accentuent la nuit et qui ne sont pas améliorées par le repos. Parmi les signes évocateurs, on trouve aussi une atteinte cutanée, caractérisée le plus souvent par ce qu'on appelle un purpura, soit l'apparition de petites taches rouges ou violacées, correspondant à de minimes saignements sous-cutanés et prédominant sur les pieds, les jambes, les mains, les avant-bras. Dans les autres appareils impliqués dans cette maladie, on relèvera les signes ORL, pulmonaires et neurologiques. Alors pour commencer, les signes ORL peuvent comporter un simple saignement de nez récurrent, la présence de croûtes dans la cavité nasale, une sinusite qui peut traîner ou qui peut être aiguë, voire parfois une baisse brutale de l'audition. L'atteinte des poumons, elle, peut se manifester soit par une toux isolée, parfois des difficultés respiratoires et plus rarement des crachats sanglants, voire un mode de présentation comme un asthme sévère. Les nerfs périphériques sont également parfois touchés dans cette maladie, essentiellement au niveau des pieds, des jambes, pouvant donner des troubles de la sensibilité superficielle, des fourmillements, mais parfois également une diminution de la force musculaire, allant parfois jusqu'à la paralysie de certains orteils ou d'un pied. Pour finir, un des volets les plus sévères de cette maladie, c'est l'atteinte des reins. Ces organes profonds dont le rôle c'est de filtrer, nettoyer le sang en produisant les urines. Les reins sont très souvent affectés par ces vascularites, dans près de 70% des cas, en raison de la densité importante des petits vaisseaux inflammés au sein du tissu rénal. La pathologie rénale est le plus souvent silencieuse dans les phases initiales de la maladie, mais peut conduire à l'insuffisance rénale sévère à des stades plus avancés, une espèce d'empoisonnement de notre organisme par nos propres déchets qui ne peuvent plus être éliminés par les reins qui ne marchent plus. Ceci se manifeste par des nausées, des vomissements, parfois des difficultés respiratoires, des troubles du rythme cardiaque, des œdèmes dans les jambes, des crampes, des démangeaisons. Vous voyez des signes très polymorphes. Comme vous le comprenez, donc aucun de ces signes n'est spécifique de la vascularite. Ceci rend d'ailleurs le diagnostic difficile et souvent tardif. On met du temps à trouver le diagnostic, qui est évoqué devant la coexistence de plusieurs de ces symptômes. Ces maladies, il faut voir qu'elles peuvent apparaître à tout âge, mais sont le plus souvent détectées chez des patients entre 50 et 80 ans, avec une petite prédominance pour les hommes.
Alors justement, quand on suspecte cette maladie, comment est-ce qu'on effectue le diagnostic chez les patients?
Alors, quand le diagnostic est évoqué par un médecin devant ce faisceau de signaux cliniques, c'est en premier lieu un dosage, un bilan biologique qui va être demandé pour confirmer la maladie. On recherche spécifiquement dans le sang du patient la présence des ANCA, ces anticorps qui ont donné le nom à cette maladie. Il s'agit d'auto-anticorps dirigés contre un certain type de globules blancs qu'on appelle des polynucléaires neutrophiles. Plus de 95% des patients sont positifs pour ce test biologique au moment de l'activité de la maladie, ce qui rend d'ailleurs ce dosage extrêmement utile au plan diagnostic. Il faut néanmoins garder en tête que ces ANCA peuvent être aussi retrouvés dans d'autres contextes cliniques, d'autres maladies auto-immunes et même d'ailleurs chez le sujet sain. Donc ça ne suffit pas pour porter le diagnostic, il faut également des anomalies cliniques qui accompagnent la positivité des ANCA.
Et dans ce cadre, professeur Karas, quels sont les diagnostics différentiels qu'il faut écarter?
Les signes de la vascularite étant finalement assez polymorphes, de multiples pathologies peuvent être évoquées selon la présentation. En premier lieu, il est impératif d'écarter un certain nombre d'infections subaiguës, notamment par exemple une endocardite, une infection d'une valve cardiaque, une infection pulmonaire, un abcès profond. Ceci est d'autant plus important que le traitement initial de la vascularite, si c'en est une, comportera des médicaments qui peuvent aggraver un souci infectieux si celui-ci n'a pas été éliminé préalablement. À côté des problèmes infectieux, les autres diagnostics différentiels sont d'autres maladies auto-immunes, systémiques, dans le sens où ça touche plusieurs organes, comme le lupus ou la polyarthrite, mais surtout d'autres types de vascularite, comme le purpura rhumatoïde ou la cryoglobulinémie.
Et à ce stade précoce, est-ce qu'il y a des explorations complémentaires à effectuer?
Alors, c'est vrai qu'on réalise en premier lieu des examens biologiques au laboratoire, sanguins ou rénaux, urinaires plutôt, donc je devrais dire, qui peuvent montrer un syndrome inflammatoire, une anémie, un dysfonctionnement rénal parfois, voire dans plus rares cas, un défaut d'oxygénation du sang lorsque les poumons sont atteints de façon importante. À côté du bilan biologique, on complète souvent par des examens des différents organes qui sont potentiellement touchés par la vascularite. Ainsi, on va pouvoir éventuellement faire une imagerie des sinus ou des poumons si on a des signes cliniques ORL ou pulmonaires. On peut faire un électromyogramme si on a des problèmes neurologiques pour caractériser et confirmer l'atteinte nerveuse. On peut parfois faire une biopsie de peau en cas d'un purpura. Lorsque les poumons sont atteints, on est même parfois amené à faire ce qu'on appelle une endoscopie des bronches, mettre une caméra dans les bronches pour aller regarder ce qui s'y passe et puis éventuellement confirmer la vascularite au niveau de l'arbre bronchique. Quand on suspecte une atteinte rénale, on procède également souvent à une biopsie rénale. Alors ce geste que je connais bien puisque je suis néphrologue consiste à aller prélever avec une aiguille à travers la peau et sous l'anesthésie locale de minuscules fragments du rein pour les analyser au microscope. Cette analyse, extrêmement utile, nous permet de confirmer le diagnostic de vascularite, d'évaluer la réversibilité des lésions rénales, de prédire l'évolution de la fonction rénale et souvent donc de guider la thérapeutique et le traitement. Alors, tous ces examens doivent être réalisés rapidement, dès la suspicion de la maladie, car la mise en route du traitement est souvent urgente dès que le diagnostic est confirmé. Alors, ces examens sont souvent initiés en cabinet, de consultation ou en laboratoire de ville, mais dans la plupart des cas, il faut les compléter au cours d'une hospitalisation dans un service spécialisé.
Alors pour conclure, professeur Karas, puisqu'on arrive à la fin de notre entretien, comment orienter les patients qui sont concernés?
Alors comme je disais, quand le diagnostic d'une vascularite est évoqué, le patient doit être pris en charge dans un service hospitalier ayant une compétence dans le domaine. C'est une maladie rare et tous les praticiens ne connaissent pas la maladie. Alors, il s'agit le plus souvent de services de médecine interne ou de néphrologie, mais cela peut être également le cas dans des services de pneumologie, de rhumatologie, d'ORL ou dermatologie qui connaissent cette pathologie rare. Alors, les vascularites sont des pathologies nécessitant une confirmation diagnostique urgente et parfois une initiation d'un traitement en quelques jours, voire quelques semaines. Ce qui signifie qu'un adressage direct et rapide est le plus souvent nécessaire à ces centres de référence, sans attendre les délais souvent longs qui sont nécessaires pour obtenir un rendez-vous de consultation avec un spécialiste. Il ne faut pas attendre 3 mois ou 6 mois pour voir le spécialiste. Il faut essayer de joindre, par le biais de votre médecin généraliste, ou par le biais des réseaux de centres de référence, un spécialiste pour faire le bilan rapidement. Alors, la liste des centres de compétences ou de référence est accessible en passant par les réseaux spécifiques, tels que la filière maladies rares et failles de serre, ou le réseau du groupe français d'études des vascularites, qui dispose de plusieurs dizaines de centres et de relais à travers la France.
Eh bien, merci infiniment, professeur Carras, de nous avoir fait mieux connaître le diagnostic de cette maladie rare que sont les vascularites à ANCA. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnerons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.